Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Bien écoutez, le cinéma Le Sémaphore est un lieu de rencontre, comme tout le monde le sait. Et le 5 février, c'était la sortie du film Maria, bien sûr Maria Callas. Et Le Sémaphore avait invité Jean-Max Méjean pour présenter le film. Donc voilà, Jean-Max est ici. Bonjour,
bonjour
Jean-Max.
Bonjour.
Alors Jean-Max, vous êtes critique de cinéma, écrivain. Donc vous aviez présenté donc ce film. Et nous avons fait connaissance et je vous ai proposé donc de venir. Et vous êtes toujours partant pour parler cinéma, j'ai l'impression.
Oui, j'adore le cinéma, évidemment. Et aussi la musique. Et donc, Maria, c'était un bon moment qui réunissait ces deux arts. Mmh. Et puis, j'ai été ravi de vous rencontrer.
Merci.
Et de participer à cette radio de Nîmes, qui est ma ville natale.
Voilà. Ah, voilà. Et vous revenez. Enfin, vous êtes mi-parisien, mi-nîmois.
J'ai été très longtemps parisien. Et puis maintenant, je me partage. Voilà.
Alors, vous avez... J'ai dit écrivain parce que vous avez écrit une trentaine de livres, pas toujours seul. Hein, vous fédérez, vous...
Je l'ai écrit seul, ou je l'ai co-écrit, ou je dirige. Alors là, je suis directeur scientifique, comme on dit.
Oh, là,
et donc, et c'était le cas d'ailleurs pour l'opéra à l'écran.
Alors, ce livre, il vous a demandé beaucoup de temps. Vous n'êtes pas... mélomane, vous n'êtes pas musicien, vous n'êtes pas musicologue.
Malheureusement, je crois que j'ai pensé à faire ce livre parce que j'aimerais être musicien, mais bon, je n'ai pas tous les talents, hélas.
Mais vous aimez écouter.
J'aime écouter et j'aime aussi que le cinéma, il ne peut pas se passer de la musique. Donc on avait fait ce constat et en fait j'ai eu l'idée parce que j'avais écrit un livre pour Espace et Signes, une maison d'édition parisienne, sur Montmartre et ses alentours au cinéma. Et il a quand même assez bien marché, je l'ai co-écrit celui-ci d'ailleurs avec Jean-François Piubert, et j'avais proposé à l'éditrice qui m'a fait travailler, donc j'ai cherché partout des photogrammes, je m'étais dit, et si on travaillait autour des deux opéras parisiens dans le cinéma. Puis elle n'a plus voulu, mais j'ai dit, on ne peut pas abandonner. Et voilà, et ça a donné l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement le lieu qui nous intéresse, mais la musique opéra, l'influence ou la mise en scène opératique qui influence le cinéma.
Oui, j'avais relevé ce terme de mise en scène opératique, hein, qui y a vraiment... Parce que transposer tout de même l'opéra d'une scène à l'écran, c'est pas toujours évident.
Alors il y a cet aspect. Il y avait bon, ça c'est Rolf Liebermann qui avait demandé donc à Joseph Losey. C'est le premier film qu'on a pour faire sortir un petit peu, parce que l'opéra était en perte de spectateurs, pour faire sortir un peu l'opéra des murs, et il avait fait Don Giovanni, qui avait eu quand même un assez beau succès, surtout en France et en Europe. Pas du tout en Amérique.
Ouais. Alors, ce livre, il est aux éditions Grémez. Il vous a demandé tout de même beaucoup, beaucoup de temps.
Ah oui,
il y a une table des matières très conséquente. Hein, donc,
oui.
Peut se repérer tout de même.
Comment on le
consulte, ce livre?
Alors, il y a trois entrées. Alors, on a choisi 50 films analysés assez... comment dire, précisément, assez longuement, parce que c'est des analyses de 3-4 pages chacune. De films, bon, on en parlera peut-être, je vous donnerai quelques titres. Et ensuite, il y a, et ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un collaborateur italien, Enrico Giacovelli, et lui a fait un index qui est pratiquement exhaustif
complet.
De tous les films depuis les origines, c'est-à-dire le cinéma muet, jusqu'à nos jours, de tous les films dans lesquels il y a allusion ou mise en scène ou un opéra ou évidemment des opéras filmés. Et au centre, le cahier central est constitué d'une quarantaine de pages avec des photogrammes où on montre l'endroit précis où on entend un morceau d'opéra dans une multitude de films. Et c'est illustré, donc c'est agréable à regarder aussi.
Donc c'est un travail très minutieux qui prend beaucoup de temps et on peut l'aborder en fait comme on a envie, hein, soit... On a parlé que vous glaniez dans le cinéma.
Je pouvais être un glaneur de cinéma. En fait, j'aime tous les genres, je n'ai pas d'a priori. Alors, c'est ça, les glaneurs,
c'est
non?
Très bien, puis c'est la curiosité. Et puis c'est au
fil quand vous allez dans un champ, vous glanez tout ce qu'il y a à glaner.
Voilà. Alors, on va écouter, puisque l'opéra à l'écran, l'opéra au cinéma, on va écouter, comme nous avons fait connaissance avec Maria, on va écouter la bande-annonce du film.
Je souhaiterais retracer votre vie avec vous. Dois-je vous appeler Maria ou la Kalas ? Dites-moi ce que l'on ressent quand on monte sur scène.
Une exaltation incandescente, une folle ivresse. J'avais la sensation que la scène tout entière allait s'embraser.
C'est une chose qui se produit parfois, la chose qui se produit en cet instant.
Il y a un point où la confiance en soi devient presque une sorte de folie.
Cela vous convient, la position du piano, madame ?
Non, je n'aime pas. Mais je suis gentille, alors laissez-le là.
J'aimerais que vous me parliez de ce qu'est votre vie en dehors de la scène.
Je n'ai pas de vie en dehors de la scène.
Veulent savoir ce qui a bien pu vous arriver.
Tu n'as jamais été libre. Oublie la musique.
Votre voix ne reviendra pas.
J'ai aujourd'hui le contrôle. Je chanterai quand je serai prête à chanter. Oh, Seigneur. Venez, rentrons. C'est l'opéra. Rien n'est raisonnable dans l'opéra.
Alors, l'opéra au cinéma, l'opéra à l'écran, comment cette passion vous est venue? Puisque vous m'avez dit que vous avez fait d'abord des études de philo, comment on passe de la philo au cinéma? Ça vous a pris à quel âge? Là, vous êtes tombé dans la potion magique à quel âge?
J'ai fait philo, j'ai fait une maîtrise à Montpellier, à Paul Valéry, et il y avait le célèbre professeur Henri Hagel. Et on s'est rencontrés, non pas parce que j'ai assisté à ses cours, mais il faisait tous les... Alors à l'époque, c'était le jeudi, le jour des écoliers. Le jeudi, il faisait un ciné-club. Et avec une copine, on avait décidé de... C'était un franc la séance. Et comme quand on est étudiant... Et puis
pas
en plus, c'était
sous.
Du joke, hein, pour rire. Et c'est comme ça, on rentrait sans payer. Et puis un jour, sa femme tenait la caisse. Elle a dit, mais pourquoi vous passez toujours sans payer? Vous n'avez quand même pas un franc. Et on est devenus amis quelquefois, vous voyez. Ouais. Et alors... Moi, j'ai fait philo, j'étais, dans les idées pures, hein, j'essayais du moins. Et j'étais pratiquement, j'étais allé au cinéma comme tout le monde, mais vous savez, j'avais
pas une passion.
Je n'avais pas une culture élitiste. Par exemple, je ne connaissais pas Pasolini et je ne connaissais pas Fellini. Je n'avais même pas vu La Strada. Et donc, je vais au cinéma, c'était l'année où sortait Fellini Satyricon, donc je suis tombé en pamoison. Et donc, j'ai écrit à Federico Fellini. Monsieur Fellini, Cinecittà. Et il m'a répondu.
Un peu inconscient, hein? Jeune, en fait.
Non, mais il répondait.
Il
la
répondait.
Preuve, il m'a répondu. Il m'a fait répondre une lettre. Et alors, Enfin, on ne s'est pas vu dans les 5 minutes qui ont suivi, mais bon, ça a été une longue, longue histoire. Mmh. Et c'est mon mentor, c'est mon maître, ouais. Voilà.
Et de là, de fil en aiguille, vous en avez fait votre métier, votre
après, ben, quand j'ai fait ma thèse d'État sur lui, qu'il a lu, qu'il avait aimé, et il m'a aidé à trouver un éditeur. Et 4 ans après sa mort, il est mort en 1993, en 1997, paraissait Fellini un rêve, une vie. Et à partir du moment où j'ai... Tout s'est enchaîné, parce qu'il a relativement bien marché pour un livre de cinéma, c'est-à-dire 2000 ventes, hein. Parce que les livres de cinéma, si vous en vendez 40-50, c'est déjà bien. Ouais. D'autant que les gens ne lisent pratiquement plus. Hein. Mmh. Bon, alors, donc, après, j'ai eu des propositions et puis voilà, j'en suis à mon 30, je ne sais pas quoi.
Alors, vous disiez tout à l'heure que Don Giovanni, c'était le film qui a mis un peu l'opéra au goût du jour au cinéma. Mais vous n'avez pas choisi de nous faire écouter Don Giovanni. Vous avez choisi plutôt le film de Jean-Jacques Benex. Pourquoi ?
Alors, j'ai choisi Diva parce qu'en fait, tout le monde connaît Don Giovanni, en fait, du moins les gens qui aiment l'opéra. Ils connaissaient moins la Wally. Hein, donc, alors, c'est une commande, hein, Don Giovanni. C'était un peu téléguidé par Rolf Immermann, qui à l'époque était le directeur de l'opéra Garnier. Et puis, il a demandé à Daniel Toscan du Plantier, qui à l'époque travaillait pour la Gaumont. Un film qui a coûté très, très, très cher. On a demandé à Joseph Losey. Au départ, Toscan Duplantier avait pensé à Patrice Chéreau, qui était déjà à l'époque metteur en scène. Il faisait des films, mais il était aussi metteur en scène d'opéra, oui, comme Visconti, d'ailleurs.
Un grand mélomane.
Et il s'est pas senti le courage. Mm. Et Joseph Losey, curieusement, qui est pourtant américain, enfin bon, très marqué à gauche, a accepté.
Et voilà.
Et Jean-Jacques Benex, un peu plus tard, en 1981, réalise Diva, qui est l'histoire d'un garçon qui est postier et qui est amoureux, enfin en tout cas grand, grand, grand amateur d'une diva d'opéra qui vient à Paris pour interpréter la Wally. Et il lui vole son costume de scène parce qu'il a la chance de passer dans les loges. Et voilà. Et ça donne ce magnifique morceau donc,
que nous écoutons.
Que nous écoutons.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous avons la chance donc d'avoir rencontré Jean-Max Méjean donc au Sémaphore Et j'espère que vous viendrez régulièrement à notre micro maintenant.
Ben, oui, c'est très sympathique. Moi, j'aime beaucoup.
Parler de cinéma, vous avez une grande culture de cinéma. Hein, on sent que c'est presque scientifique. Mais après, il y a vos états d'âme, il y a vos coups de cœur, il y a vos...
Ben, c'est-à-dire que je n'ai pas des goûts... oui, à part Fellini. Ben, je parlerai souvent de Fellini.
Bon, votre mentor.
Voilà, n'en prenez pas ombrage. Parce que... mais à part, il y a d'autres...
Donc, vous allez très souvent au cinéma, sur Paris, sur Nîmes. Comment vous choisissez les films? Les sorties, les projections de presse? Comment vous faites?
C'est inimaginable le nombre de films qui sortent.
C'est, oui, mais
quand on est
trop,
du côté de la critique, je reçois tous les jours peut-être une cinquantaine d'invitations à des. Et on ne peut pas aller à toutes.
Hein. Ben non.
Et alors. On choisit au hasard, au pif en fait.
Ouais.
Alors après, il y a les grands, par exemple, y a des films qui sont incontournables que tout le monde a envie de voir, hein, on les attend. Mais il y a
les derniers que vous avez vus, c'est quoi?
Alors, j'en ai tellement vu. Alors, qu'est-ce que... J'ai vu un film iranien, Le pays de nos frères, qui est un premier film, qui est une merveille, comme tous les films iraniens qui sont magnifiques, et qui parle de l'accueil des Afghans, quand c'est pas les Afghans, les talibans, c'est quand les Américains ont commencé une guerre en Afghanistan, et qui ont demandé d'être recueillis en Iran, parce qu'ils pensaient, comme ils ont la même religion et à peu près les mêmes traditions, qu'ils seraient accueillis. Eh bien non, il y a eu énormément de problèmes, on leur a fait faire les sales boulots, etc. Et c'est un très très beau film.
Et sinon, est-ce que vous allez voir les blockbusters? Est-ce que vous allez voir... Non.
Bah, ça dépend ce qu'on entend par blockbuster, mais...
Disons les films dont il y a une publicité.
Oui, oui, ça, bah
The
oui.
The Brutalist, par exemple.
Oui, je l'ai vu.
Vous l'avez vu?
Je l'ai vu,
je
mais
pense aussi
j'ai aimé
Dylan,
que la première partie.
Le Parfait Inconnu.
Ah ça, alors, chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Mais moi, je n'appelle pas ça un blockbuster.
Non, non, mais j'ai...
Non. Je voulais dire des films
qui ont beaucoup de publicité.
Non, non, j'avais peur que vous me parliez des Marvel, des choses comme ça.
Non, je
parce
me suis
qu'avant,
mal exprimée.
J'y allais. Mais là, j'ai plus le temps. Moi, je suis fatigué de voir des films.
Donc, The Brutalist,
Un Parfait Inconnu.
Toujours en VO, bien évidemment. Vous voyez tout
Maria,
ça.
Maria, évidemment.
Maria.
Qu'on a adoré tous les deux.
Moi, je n'ai pas compris qu'on trouve ça un film glacial, froid, triste. Bah oui, elle meurt.
C'est un opéra.
Les opéras, on
ne meurt pas de rire dans les opéras. À part dans les opérettes. Mais les opéras, c'est toujours la tragédie.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc. Vous êtes fatigué de voir des films, mais vous gardez votre acuité tout de même et vous en faites les critiques où?
Alors, sur Jeune Cinéma, qui est une revue papier, elle s'appelle Jeune Cinéma, mais c'est une vieille revue. Elle date de la parution des ciné-clubs Jean Vigo, vous voyez, c'est en même temps. Et elle existe toujours, elle vit sans publicité, donc j'en fais la pub. Et puis une autre qui est plus jeune, mais seulement en ligne, qui s'appelle « Il était une fois le cinéma.com ». En un seul mot, tout en minuscule.
Voilà. Donc vous faites des écrits,
Des rubriques, je continue à faire le glaneur.
Le glaneur.
Et dans la glanure, je signale aussi un film somalien, c'est rarissime. Le
moyen.
Petit village près du paradis. Et c'est très beau aussi. Ça a été présenté à Cannes l'année dernière dans un certain regard et c'est un petit bijou que je recommande. Il va sortir fin mars.
Vous allez à Cannes tous les ans?
Je n'y vais plus. À partir de cette année, c'est terminé.
Je déteste
ce que c'est devenu. J'ai horreur qu'on nous parque comme des moutons, qu'on soit obligé de regarder notre smartphone pour pouvoir nous inscrire aux séances, ne pas choisir les films qu'on me voit. Je ne vais plus à Cannes.
Cannes. Alors, comme nous avons fait connaissance à propos de Maria, de votre livre sur l'opéra, on va passer un troisième extrait qui, là, est un peu un choix personnel, puisque votre cousine chantait.
Ah, voilà. Alors, on a deux articles dans notre livre collectif « L'opéra à l'écran » sur Carmen. Alors, il y a le Carmen Carlos Saura et celui de... Bon, enfin, peu importe. On entend toujours la habanera, évidemment, quand on parle de Carmen. Mais là, j'ai voulu rendre hommage à ma cousine, hélas décédée, Andrea Guillot, qui est une garonnaise et qui était chanteuse à l'Opéra de Paris. Et elle a interprété, justement, Maria Callas n'a jamais interprété Carmen en scène, mais elle avait enregistré sous la direction de Georges Prêtre un disque. Et elle jouait évidemment, elle chantait le rôle de Carmen, et Andrea Guillot, celui de Michaela. Voilà. Donc on dit que rien ne m'épouvante. Magnifique morceau de Bizet.
Nous venons d'écouter donc l'air de Michaela. Vous avez retrouvé le réalisateur, c'est Francesco Rosi. Vous avez la tête tellement pleine de noms que parfois il y en a un qui
non,
vous
c'est
échappe.
Pas, c'est l'âge. C'est l'âge. Et puis, je ne peux pas dire que j'ai le trac parce que vous êtes tellement sympathique. Non, je ne suis pas devant un professeur. Non, ça arrive, vous savez qu'on perd des noms comme ça.
Bien sûr. Alors, écoutez, merci à vous de venir. On va vous retrouver avec grand plaisir. On est en train de réfléchir au titre que nous allons donner à cette émission à peu près une fois par mois. Ça sera toujours dans Clap Cinéma. Alors, on sent que vous glanez, que vous... On va voir. Vous flânez dans le cinéma. Ça ne va pas être un cours magistral.
On pourrait lancer un référendum. On est ouvert à toutes les propositions.
Et on va donc finir en musique, hein, puisque c'était l'opéra... au cinéma, l'opéra à l'écran, c'est votre livre. Et on va finir avec un autre chef-d'œuvre.
Alors voilà, je voulais, enfin on en a un peu discuté, je voulais terminer sur une note qui ne soit pas purement opératique, puisque c'est un film qui est sorti il y a 3 ans à Cannes, qui avait fait à la fois un scandale parce qu'il n'a pas eu la palme. Donc c'est Annette de Léos Carax. Et c'est les Sparks, c'est pas du tout des musiciens classiques qui ont fait la musique du film, mais il se trouve que dans le film, Marion Cotillard est mariée ou l'accompagne d'Adam Driver. Lui est un amuseur public un peu bizarre, et elle est chanteuse d'opéra. Et ils lui ont composé un morceau qui est chanté donc par Catherine Trottmann, et c'est une merveille, parce que ce que je trouve, c'est que c'est des créateurs de New Rock qui sont arrivés à faire illusion. On a presque l'impression qu'on entend un morceau de Verdi ou de Bellini.
Bah, c'est une belle conclusion, parce que l'art, le cinéma, c'est une illusion ou c'est la réalité? Ça pourrait être une belle conclusion.
Alors, il y a la réalité, la fausse réalité, c'est-à-dire le documentaire. Et puis après, il y a l'autre aspect qui est la pure fiction, c'est-à-dire le cinéma, surtout qui est fait pour rêver.
Bien écoutez, on vous retrouvera avec grand plaisir. Vous pouvez réfléchir d'ici là de quoi vous allez parler ou vous ne saurez pas puisque ça dépend de ce que vous
si j'aimerais bien vous parler d'Albert Serra et Tardes de Soledad, qui est un film, puisqu'on est à Nîmes, sur la tauromachie et qui est une merveille, franchement. Non. Vraiment, et je ne suis pas un aficionado, je tiens à le souligner. Eh bien, écoutez, franchement,
on se retrouvera, voilà, pour parler de...
On comprend que c'est que la tauromachie est un art.
Bien, écoutez, merci à vous, Jean-Marc, et puis à très bientôt, et puis bonne séance. Hein.
Eh bien, merci à vous, et puis à bientôt. À bientôt.
Where is the starlight? Bearings lost, we're adrift.